Et même avec cette chaleur accablante, nous sommes là pendant tout l'été et il y en a un à qui on va rejoindre et je ne sais pas s'il fait chaud, c'est vous David Torchala. Bonjour David.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, je confirme, il fait chaud, mais il y a un tout petit filet d'air. Quand même.
Profitez bien sûr de ce filet d'air. Alors, on était ensemble lundi pour l'actualité du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et vous nous aviez promis un direct depuis la fête du livre au cœur même du sanctuaire.
Ben oui, c'était promis lundi. Eh bien, c'est chose faite mercredi. On est vraiment au cœur du sanctuaire, à la porte Saint-Joseph. Et on est vraiment là, au milieu de ce grand pèlerinage national, dans la fête du livre chrétien. On va vivre un moment très sympa ensemble et on a plein d'invités.
Alors,
on va
vraiment
rester avec nous.
Ah, bien sûr, on va rester avec vous. Alors, pour situer où c'est que vous êtes exactement, cher David?
Alors, nous sommes tout près du centre d'information, près de la librairie de la Grotte, cette grande librairie, évidemment, au cœur du sanctuaire. Et alors, on est sur la porte Saint-Joseph. La porte Saint-Joseph, vous savez, c'est la porte de service du sanctuaire. On connaît tous cette grande porte Saint-Michel avec cette grande allée et esplanade des processions. Et puis, avec le temps, eh bien, les constructions, l'hôtellerie s'est construite près de la porte de service, cette porte Saint-Joseph. Et aujourd'hui, 80% des pèlerins qui entrent au sanctuaire franchissent cette porte. Alors on est vraiment là dans le flux, vraiment on est au cœur des pèlerinages et à l'entrée il y a du mouvement, mais bon, mais c'est sympa.
Eh bien écoutez, cher David, je vous laisse avec vos premiers invités. J'ai bien compris en préparant, parce que j'entendais un retour quand même, mais vous avez déjà les invités qui sont autour de vous, donc je vous laisse bien sûr le soin de les présenter. Bonne émission David.
Merci Philippe. Ben voilà, c'est cette deuxième édition de la fête du livre chrétien. Nous sommes avec nos premiers invités. Et alors, c'est super parce qu'on ouvre avec des Lourdais. Je suis avec Daniel Peset. Bonjour Daniel.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes à côté de vous, nous avons Jean-Christophe Borde. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais écoutez, vous êtes chez vous car vous êtes vous aussi de Lourdes. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes passionné d'histoire et du cinéma pour ceux qui vous connaissent. Et alors, vous avez collaboré ensemble pour célébrer un grand anniversaire. C'est le 140e anniversaire de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Daniel Peset, vous êtes président d'une hospitalité qui a 140 ans. Ça, c'est quand même un héritage.
Ah, tout à fait. Et puis, ça crée des devoirs. Et effectivement, quand on est à la tête d'une hospitalité qui a été créée en 1885, on se dit qu'il faut non seulement fêter l'événement, l'anniversaire, mais rappeler un peu tout ce qui nous a amené aujourd'hui, ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Mais aussi par des témoignages, rappeler ce que font aujourd'hui les hospitaliers de Lourdes avec des témoignages, et puis le côté international aussi de notre hospitalité, enfin, parler des défis de demain.
Alors pour ça, vous éditez une magnifique publication, 120 pages, j'aurais presque pu faire 140 pages pour les 140 ans, mais on n'est pas loin, et donc Jean-Christophe, vous avez été rédacteur de cette publication, on va en parler, mais simplement pour situer, nous sommes là à quelques jours de la grande fête de l'Assomption, avec le pèlerinage national de l'Assomption. 7000 pèlerins sont là, ils sont aussi rejoints par bien d'autres, et puis on attend 20 000 personnes pour cette fête du 15 août. Il faut bien comprendre que ces hospitaliers peuvent venir servir des malades parce qu'il y a l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, j'ai envie de dire l'hospitalité mère, qui est là pour les accueillir. C'est une grande chaîne de fraternité. Est-ce que vous pouvez bien nous réexpliquer le rôle des hospitaliers Notre-Dame de Lourdes?
La mission des hospitaliers Notre-Dame de Lourdes, c'est l'accueil. L'accueil de tous les pèlerins et en particulier des pèlerins malades. Et ça, c'est une spécificité de notre sanctuaire aussi, de mettre les malades au premier rang. Et donc pour justement les accueillir, pour pouvoir animer les processions, pour pouvoir animer les piscines, il y a besoin d'avoir des bénévoles chrétiens qui se sont organisés en association, et ça depuis le début, depuis il y a 140 ans. Voilà. Et en fait, dans le titre, pèlerins et serviteurs, voilà, c'est ce que nous sommes, à la fois au service, mais en même temps pèlerins. C'est-à-dire que nous répondons à l'appel de Marie.
C'est un engagement, devenir hospitalier. C'est d'abord une phase de découverte, et puis c'est vraiment un engagement. On fait la promesse de venir chaque année en service à Lourdes.
Oui, en fait, au terme de 4 années de préparation, de formation, on a la possibilité de faire son engagement. C'est-à-dire, je m'engage à venir régulièrement, pas forcément tous les ans, ça dépend de ma santé, ça dépend de mon travail, ça dépend aussi des finances, parce que venir à Lourdes, ça a aussi un coût. Mais je m'engage à venir. Et puis, même si je ne suis pas à Lourdes, je continue quand même à être hospitalier, chez moi, autour de moi.
Oui, voilà. C'est ça.
C'est un envoi en mission aussi de devenir hospitalier.
Accueillir les pèlerins malades, âgés, fragiles, vous l'avez dit, il y a besoin de se former. Pour cela, on ne s'invente pas hospitalier. Et ça, depuis 140 ans, la formation a toujours accompagné le parcours des hospitaliers.
Oui, il y a trois volets dans la formation. Il y a effectivement la partie technique, parce que ça ne s'invente pas, d'aider un malade dans le bain, de le préparer, ça ne s'invente pas. Il y a la partie aussi comportementale, c'est-à-dire, comment dirais-je, le geste qu'il faut, les paroles d'accueil, le sourire. Nous, on insiste beaucoup sur le sourire, hein, bon, voilà, parce que c'est important. Ça commence comme ça, l'accueil, même à la gare, ça commence par un sourire, avant le premier mot. Troisième volet, la partie spirituelle. Voilà, je suis à Lourdes, je dois donc non seulement connaître le message de Lourdes, mais l'approfondir, voilà, et me le rappeler. Voilà, je suis pèlerin aussi, je suis pèlerin. Je vois, donc il y a ces trois volets, c'est une formation et c'est depuis 140 ans. Mais voilà.
Et vous l'avez dit, depuis 140 ans, eh bien, les hospitaliers Notre-Dame de Lourdes permettent aux personnes de pouvoir vivre le bain, être immergées dans l'eau de Lourdes. Et puis c'est aussi les accueillir. Vous avez parlé du quai de la gare, on pourrait parler du tarmac de l'aéroport. C'est le premier accueil quand on arrive en terre de Bigorre.
Ah oui, effectivement. On nous le disait quand j'étais stagiaire de première année, c'est vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à accueillir les pèlerins. Donc tout doit être parfait. Et donc on doit avoir ces mots d'accueil. Et puis cette chaleur aussi. Enfin, voilà, faut avoir de l'empathie. On est heureux d'accueillir nos frères et sœurs en humanité.
Ben, vous le transmettez bien. Jean-Christophe Borde, alors vous, vous êtes lourdais. Daniel Peset vous a appelé pour être le rédacteur de cette publication qui est présentée pour cette deuxième édition de la fête du livre chrétien ici au sanctuaire de Lourdes. Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et 140 ans pèlerins et serviteurs. Alors, vous êtes lourdais. Est-ce que vous avez néanmoins découvert quelque chose? On pourrait dire qu'on sait déjà tout des hospitaliers de Lourdes. Hein.
Alors j'ai tout découvert. Je pensais bien connaître l'hospitalité, effectivement, en tant que lourdais, en tant que journaliste, puisque j'ai quand même collaboré à Lourdes Magazine pendant quelques années. Je croyais tout savoir, les piscines, la gare, etc. Et en fait, j'ai découvert, grâce à Daniel, tout un monde de dévouement, un monde de générosité, une maison commune où chacun a son importance, chacun apporte sa pierre. Et j'étais stupéfait de voir comment on pouvait, de manière aussi désintéressée, se consacrer aux autres. Ça a vraiment été la plus grande découverte. Après, c'est vrai que j'ai pu suivre les uns et les autres sur les lieux du service, c'est-à-dire aux piscines, à l'aéroport, à la gare, et partager le quotidien comme ça de ces missions-là, c'est d'une richesse incroyable. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre comme ça, on pouvait se consacrer aux autres d'une aussi belle manière et d'une manière aussi désintéressée, finalement.
Ouais, c'est ça, c'est toujours découvrir les œuvres de l'intérieur et ne pas rester au superflu de l'information. Vous avez forcément découvert des tas de personnes, vous avez fait beaucoup d'entretiens, d'interviews.
Ce qui m'a frappé, c'est que, et ça c'est le point commun entre chaque personne que j'ai pu rencontrer, c'est que leur maison c'est Lourdes. Ils sont ici, chez eux. Et quand ils en repartent, d'abord ils sont très malheureux d'en repartir, mais une fois qu'ils sont chez eux, ils ne parlent que de Lourdes. Lourdes, la mission d'hospitalité c'est Lourdes, mais c'est aussi quand une fois rentrés chez eux, ils ont tout un rôle à tenir et ce sont les premiers ambassadeurs à la fois de Lourdes et de l'esprit de Lourdes, ce que représente le service. Parce que Lourdes sans l'hospitalité, ça ne serait pas Lourdes dans tous les cas. Et ils incarnent à leur manière les Bernadettes d'aujourd'hui. Voilà, cet esprit de Bernadette, ce dévouement de Bernadette, on le retrouve dans chacun, et je dis bien chacun, des hospitaliers. J'ai pas rencontré un hospitalier qui soit là par intérêt, qui soit là par autre chose que le dévouement. Et la récompense, c'est le sourire, c'est les paroles qu'ils échangent. Alors il y a la barrière de la langue. Alors il y a beaucoup d'hospitaliers, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup de Français, beaucoup d'Américains. Moi, j'ai découvert, je ne savais pas qu'aux États-Unis, l'hospitalité et Lourdes pouvaient être aussi significatifs que cela. Et, voilà, et même la barrière de la langue, elle n'existe plus. Moi, j'ai rencontré des hospitaliers qui m'ont dit, moi, j'ai parlé français, je ne parlais pas français, j'ai réussi à parler français alors que je pensais que je n'en étais pas capable. Voilà, c'est ce petit miracle de l'hospitalité qui accompagne Lourdes au quotidien. Et j'en suis encore une fois, il faut lire la revue. Je vais faire la publicité pour la revue, il faut la lire. Parce qu'on découvre, vous découvrirez tout un tas de choses. Et vraiment, toucher du doigt l'esprit de l'hospitalité, ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix.
C'est beau d'entendre Jean-Christophe Borde, un grand spécialiste, un grand connaisseur de Lourdes, dire que les hospitaliers sont les Bernadettes d'aujourd'hui. Vous avez fait un bon choix de rédacteur, j'ai l'impression, Daniel Pesé, pour cette revue.
Oui, mais là je dois vous avouer que c'est l'Esprit Saint, je dis. C'est l'Esprit Saint qui m'envoie. Effectivement, je ne connaissais pas Jean-Christophe, mais il y a Pascal Castillo qui nous a tellement aidés, qui m'a convaincu que l'on pouvait arriver à faire dans les délais un ouvrage de cette qualité. Et puis, il m'a présenté Jean-Christophe. Et tous les trois, ça a bien marché. Mais donc, c'est vrai, je remercie l'Esprit Saint, mais à Lourdes.
Vous avez fait aussi un gros travail où vous êtes plongé dans les archives de l'hospitalité. On sait qu'il y a des archives qui sont conservées au sein de l'hospitalité, au sein du sanctuaire. Et donc, là aussi, on a une traversée de l'histoire. C'est important, cet enracinement dans l'histoire de Lourdes pour les hospitaliers, aujourd'hui.
Moi, en relisant l'histoire de Lourdes, en relisant les archives, j'éprouve une réelle tendresse pour tous ceux qui nous ont précédés. Des héros qui, au tout début de la vie du sanctuaire, vont créer cette association et puis la développer, construire aussi, développer les différents services, comment mieux accueillir les pèlerins. Moi, une vraie tendresse pour eux, parce que... Puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des nous avons des soucis communs, des similitudes, même encore aujourd'hui, voilà, parce qu'on a toujours... parfois quelques soucis et des difficultés. Et puis, je dis, ce qui est important, ce n'est pas uniquement de se tourner vers le passé, mais c'est de se dire, il faut convaincre, il faut donner envie de venir. Voilà. Lourdes, le sanctuaire, l'hospitalité, ce n'est pas un lieu poussiéreux qui ressasse le passé, c'est du quotidien. C'est, voilà, aujourd'hui, on accueille des pèlerins malades, toujours. Et, voilà,
quel est votre défi aujourd'hui? C'est de continuer à convaincre, à accueillir. Est-ce qu'il y a moins ou plus d'hospitaliers par avant? Quels sont les défis qui se présentent à vous en 2025?
Le défi, c'est le défi du sanctuaire, d'ailleurs. Venez et voyez, c'est convaincre. Venez voyez, oui, des jeunes, puisqu'on dit oui, c'est rajeunir, etc. Tout le monde est le bienvenu, parce que on a besoin de jeunes, les jeunes, c'est notre présent et notre avenir. On a aussi besoin d'avoir des cheveux blancs qui sont là à des périodes hors vacances scolaires, qui seront présents pendant l'hiver, parce que les piscines ne ferment jamais. Et donc, il y a besoin d'hospitaliers. Là, on est en fraternité avec les hospitaliers d'Abigor, les Landais, les Basques-Aubernais, pour continuer à ce que le service à Lourdes... Voilà, ça, notre souci, c'est que ça soit la permanence du service, mais pas du service pour le service. Du service dans le sourire, du service dans la tendresse. Voilà, c'est ça, le défi. Voilà. Accueillir avec amour.
C'est pour ça qu'il y a cette publication Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, pèlerins et serviteurs pour les 140 ans. Alors, on a nos autres invités de cette fête du livre qui sont avec nous, mais juste avant de partir, Daniel Pesé, encore une fois, vous avez un projet qui est de renouveler les voiturettes bleues de Lourdes. Alors ça fait partie de l'image d'Épinal. On connaît évidemment l'image de la grotte, l'image des grandes processions, mais ces voiturettes bleues dans lesquelles les personnes malades, âgées, sont transportées par des hospitaliers, elles vieillissent un petit peu et il y a besoin de les renouveler.
En fait, ces voitures, elles existent depuis le début du sanctuaire. Elles ont évolué. On a retrouvé des celles d'aujourd'hui. Elles ont été mises en place dans les années 50-60, si vous voulez. Donc, c'est des voitures qui ont plus de 60 ans, qui sont encore là, qui sont le symbole. S'il y a bien aussi un symbole, oui. C'est...
Ce sont encore de belles dames. Hein.
Elles sont encore de belles dames, mais 60 ans de service aussi, on commence à avoir un parc vieillissant. Donc, il est intéressant, comme l'ont fait nos prédécesseurs, de s'intéresser en disant, maintenant, il faut peut-être penser à la voiture d'aujourd'hui, avec des matériaux d'aujourd'hui, et puis, qu'est-ce qu'on reprochait à celle d'aujourd'hui? Elle est très bien. On a 700 à 800 actuellement qui permettent justement à des pèlerins fatigués, des pèlerins handicapés, des pèlerins malades de pouvoir assister à toutes les processions, les célébrations, etc. Donc, on a, je veux dire, avec l'aide du préfet, qui était en visite dans le sanctuaire.
Et le préfet des Hautes-Pyrénées, oui.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, qui ont présenté nos voitures bleues, parce qu'on parlait de mobilité dans cette visite. Donc, je vais présenter la voiture bleue et en disant, ben, comment ça vieillir. Et lui, il me dit, mais tiens, justement, je connais une entreprise à Lannemezan qui fabrique des cycles et qui, notamment, travaille aussi pour des personnes handicapées, en situation de handicap. Donc, ça serait peut-être bien que vous puissiez vous rapprocher. Alors, avec l'aide de Guillaume de Vulpian, le directeur du sanctuaire, ben nous sommes allés à côté de Lannemezan et puis on a commencé à écrire un cahier des charges. Et là, maintenant, on est déjà dans le design des futures voitures. Je pense que des prototypes vont sortir pour le Rosaire ou au moins certains pour les journées de février. Et puis, on commence les bulletins de précommande pour peu à peu inciter des associations, des particuliers à commander ces voitures. Certes, ils les commanderont et puis c'est le sanctuaire qui les recevra. Et peu à peu, ces nouvelles voitures seront plus légères, plus sûres, parce que les anciennes, on a encore parfois quelques pèlerins qui se blessent parce qu'on peut accéder au rayon, voilà tout. Donc ça sera la voiture de l'an 2026.
Voilà, donc n'attendons pas la sortie du salon de l'automobile. Ici, les prototypes de ces nouvelles voitures de Lourdes arriveront bientôt. Et donc, voilà, avec la possibilité, parce que c'est ça, hein, c'est la générosité. Lourdes, il faut que chacun puisse aussi participer et pouvoir prendre en charge une voiturette bleue. Et pouvoir aussi, il est prévu de laisser la place, le nom hein, du donateur sur l'une de ces voitures. Alors voilà, chers auditeurs, si vous souhaitez soutenir l'hospitalité, vous procurez cette publication Hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui est disponible grâce aux moyens de l'hospitalité pour découvrir les 140 ans, l'histoire, mais aussi les défis de demain. Et puis si vous le pouvez, parrainer, j'ai envie de dire, une des voitures aides bleues. Merci Daniel Pezé, merci beaucoup Jean-Christophe Borde. Vous repartez, vous, à la fête du livre et puis nous, on continue.
Merci
d'être avec nous. On continue avec Chrysoline Brabant. Bonjour Chrysoline. Voilà, vous savez, c'est comme ça, hein, c'est les effets du direct, on est vraiment dans... Merci, et on salue les invités qui partent et puis les autres qui nous rejoignent. Chrysoline, vous êtes coach,
oui.
Coach certifié, vous êtes également psychologue clinicienne, psychothérapeute, oui. Et vous publiez aux éditions de l'Emmanuel « La force des célibataires, sans question pour ce... connaître et rayonner. Ça, c'est un livre de coach pour les célibataires.
Tout à fait, David. Je suis ravie d'être là pour que nous puissions en parler ensemble. Je suis moi-même célibataire et mon activité, c'est d'accompagner des dirigeants, des futurs dirigeants, des entrepreneurs, soit individuellement, soit en équipe. Et puis petit à petit, certains sont venus pour être accompagnés personnellement, se rendant compte qu'il y avait vraiment des vases communicants entre la vie personnelle, professionnelle, associative, sociétale, politique. Et donc, j'ai fait une proposition qu'on appelle d'accompagnement holistique. Et certains m'ont dit, puisque tu m'as aidé à trouver une vie professionnelle qui me va comme un gant et qui me rend très heureux ou très heureuse, est-ce que tu pourrais pas m'aider à réfléchir à ma vie personnelle pour y trouver un alignement, un ancrage et être pleinement épanoui? Et petit à petit, certains célibataires m'ont dit, mais et le célibat, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'y reste? Est-ce que j'espère un autre état de vie? Et comment ensemble on peut réfléchir à ce qu'il y a de plus épanouissant pour moi aujourd'hui?
J'ai envie de dire, vous êtes une coach totalement complète. Donc vous vous chargez de la vie professionnelle, de l'émergence un peu des talents, si je comprends bien. Et puis allié aussi à la vie personnelle. Vous pensez qu'il est nécessaire de consoler les célibataires? Est-ce que c'est... Elle est peut-être bête ma question, mais enfin je me dis, mais est-ce que c'est une souffrance finalement d'être célibataire?
Alors c'est vrai que pour rebondir sur votre première proposition, c'est vrai que je suis coach quelque part qui embarque différents domaines et souvent ça surprend, on me dit quelle est ta spécialisation, et ma spécialisation c'est d'avoir développé mon activité de rencontre en rencontre. La vie m'appelle à des endroits et à chaque fois pour moi c'est nouveau, c'est un lieu de création et de fécondité, et c'est vrai qu'en tant que célibataire de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu d'autres confrères, d'accompagnateurs, etc., c'est une vraie joie, donc déjà j'y trouve ma fécondité. Ensuite sur votre question de la souffrance, alors c'est vrai que la souffrance c'est un mystère, et un mystère c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'épuiser. Et donc on peut tourner autour de ce mystère de la souffrance et se poser des questions, et c'est complètement légitime d'être triste si on n'est pas un célibataire choisi,
ouais.
et d'être déstabilisé, de se dire pourquoi moi, à quoi bon, etc. Et c'est vrai que les uns et les autres, et vous l'avez vu certainement dans mon livre, je commence par la part lumineuse. Comment on peut regarder nos vies ou regarder ceux qui vivent avec une souffrance aussi avec la partie qui peut être féconde, qui peut se déployer, et en tant que célibataire ou en tant que malade, quelle est la part sur laquelle je peux agir moi-même ? Au-delà du mystère de la souffrance, quelle est la part sur laquelle je peux me dire j'ai beaucoup aimé ce que Monsieur Peset a dit ici, c'est le sourire. Sourire, c'est difficile. Et à des moments, on ne peut plus sourire. C'est vrai, je le reconnais, quand on a vécu des choses lourdes, des traumatismes, on n'est pas à l'endroit où on désire être. Mais malgré tout, parfois, si on se dit, et si je souriais aujourd'hui à quelques personnes, vous voyez, et c'est tout petit, et hier, on parlait dans l'atelier avec les célibataires, ce qu'on appelle le précieux premier petit pas. Qui va vers ma joie. Voilà, donc c'est un peu le sens du livre.
Quand vous dites vous parliez avec ce groupe de célibataires, il faut rappeler que nous sommes dans le cadre du pèlerinage national, avec énormément de propositions, dont cette fête du livre. Et donc vous animez des temps de conférences. Évidemment, nous sommes dans un événement d'église. Est-ce qu'on peut dire que en église, les célibataires sont nombreux? Alors évidemment, il y a la vie religieuse, tout à fait, mais est-ce que les célibataires sont nombreux et parce que vous apportez malgré tout un regard chrétien quand même sur cette vie de célibat. Quel est votre constat?
Alors, est-ce qu'ils sont nombreux? Moi, je ne suis pas statisticienne et je ne vais pas pouvoir faire des tendances, je ne suis pas sociologue. Je peux vous parler de là où je suis. En tout cas, ils sont nombreux à désirer s'épanouir pleinement dans l'état de vie dans lequel ils sont et de pouvoir se donner. Et c'est vrai que ça rejoint vraiment ce qu'on voit chez chacun, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. On a tous envie d'aimer et d'être aimé de manière juste. Et donc vous posiez la question de la liberté. Moi je pense que l'enjeu de la liberté est dans cet espace-là d'aimer et d'être aimé à ma juste place.
Oui, c'est ça, cette liberté de célibataire, parce que parfois on a envie de dire en église, quand on voit quelqu'un de sympa, dynamique, célibataire, on se dit alors ça c'est super, on va lui demander plein de services, l'église espère ça très bien. Est-ce qu'il faut aussi résister pour aussi laisser de la place à sa vie personnelle? En tant que coach, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors moi j'aime bien travailler avec les uns et les autres sur la question, c'est qu'est-ce que tu désires? De quoi tu as besoin? Et c'est vrai que ce soit en église ou ailleurs, souvent on a tendance à projeter ce qu'on imagine de meilleur pour l'autre et à l'inciter à lui faire des propositions malgré lui. Et donc la liberté, elle est de deux côtés. En accompagnement systémique, on dit la relation, c'est une personne, une deuxième personne et une troisième entité, la relation. Et donc comment je peux assumer qui je suis, être aligné, ancré? Comment je peux découvrir l'autre en face et comprendre ce dont il a besoin, envie? Et comment je peux nourrir cette relation? Et c'est de tous les états de vie qu'on peut se poser cette question. Et vous seriez assez surpris d'écouter une autre émission radio où la journaliste était mariée et me dit « Mais votre bouquin m'a bouleversée parce qu'il m'a fait faire un travail sur la femme que je suis. Je sais l'épouse que je suis, je sais la mère que je suis. » Mais la femme, je n'avais pas vraiment réfléchi. Et ça lui a fait faire un chemin. Et j'ai un ami prêtre qui a relu le livre avant qu'il soit édité, parce que je voulais vraiment m'assurer qu'il y ait une anthropologie chrétienne derrière. Et il m'a dit, ce livre m'a fait faire un chemin d'homme, en fait. D'homme, voilà. Et donc c'est une question qu'on peut tous se poser. Comment ensemble co-construire nos relations, avoir des justes relations, que ce soit dans les services en paroisse, dans les associations, mais aussi la joie... Moi, je l'avoue simplement, souvent on me dit « Alors, est-ce que t'as des dîners sympas avec d'autres célibataires ?» En fait, ma joie, c'est de prendre mon baluchon et d'aller dans une famille amie deux ou trois jours, voilà, et d'accompagner les enfants au Poney Club, de discuter avec eux, et puis en parallèle télétravailler tout simplement, donc continuer ma vie de... Et c'est vrai que j'accompagne en présentiel, mais aussi en distanciel, et donc c'est des moments où je peux vraiment faire mon travail pour des personnes qui sont loin et qui désirent être accompagnées ici, par Zoom, tout en étant dans une famille, voilà, et en exerçant ma maternité relationnelle et spirituelle autrement.
Donc essayons peut-être dans nos cercles amicaux et de famille de cesser de vouloir absolument caser les gens les célibataires. On a toujours envie qu'ils trouvent un amoureux, en tout cas chaussures à leurs pieds. On n'est pas là dans cette œuvre-là. Vous proposez un livre de coach et c'est de l'auto-coaching. coaching. Alors ça m'a interpellé parce que avant peut-être de nous parler de la méthode, hein, parce qu'il y a une certaine méthode dans le livre. Comment vous êtes-vous venu à devenir coach et comment vous avez passé le pas d'éditer un livre?
Ah, et alors moi, j'ai toujours eu le désir d'accompagner des petites équipes ou des personnes. Et c'est vrai qu'en terminale, j'ai fait un choix assez classique d'entrer dans un parcours classique pour les raisons qui sont les miennes. Mais c'est vrai que ce désir d'accompagnement, vers 25-30 ans, il est revenu. Et donc, j'ai décidé de vivre une reconversion professionnelle. Donc, en parallèle de mon travail en conseil en stratégie dans la santé, j'ai repris des études à la fac. Et je dis vraiment à nos éditeurs que si on a un désir profond, ça vaut le coup d'y aller. Et j'ai trouvé l'énergie et les ressources pour étudier pendant 7 ans à la fac de psychologie, donc je suis psychologue clinicienne et en parallèle j'ai suivi une formation de coaching systémique nord-américain pour les familles, les couples et aussi les entreprises, les binômes de dirigeants et les petites équipes. Et puis petit à petit je me suis lancée et vraiment j'ai suivi un conseil qu'on m'a donné. J'ai rencontré 20 coachs et je leur ai demandé 10 conseils pour savoir comment on peut se déployer à sa juste place dans ce domaine-là. Et je les ai appliqués tout simplement. Donc vraiment, c'est l'occasion de les remercier. Et puis après, ce livre, en fait, c'est un client qui n'est pas chrétien et en fait, avec qui on a fait un vrai travail de libération intérieure par rapport à des choses du monde et qui a été assez bouleversé. Ses amis ne le reconnaissaient plus et il m'a dit « il faut que vous écriviez un livre ». Et vraiment, je remercie tous nos auditeurs qui ne sont pas chrétiens et qui en même temps se sentent appelés à vivre et à aimer, à être aimés, parce que vraiment c'est le mouvement principal qu'on peut tous s'offrir et c'est vraiment grâce à lui que j'ai écrit. Et chaque mois il me disait: vous en êtes à la combienième page?
Ah oui.
Voilà. Et un autre auteur, j'ai fait la même chose pour les auteurs, c'est-à-dire je suis allée rencontrer 20 auteurs et je leur ai demandé les 10 premiers conseils qu'ils me donneraient. Et il y en a un qui m'a dit: écoute, c'est assez simple, tu ouvres un fichier Word et tu mets tes idées. Et après tu leur donnes comme ton sujet de recherche. Avec un sommaire automatique. Tu l'as fait pendant 7 ans en psycho, tu vas le faire. Et puis après, il y a eu évidemment, vous savez, il y a des barrières. On vous dit, il y a plein de livres qui partent au pilon. Et en même temps, il y a quelque chose qui est dans votre cœur. Et, enfin, je vais dire il y a quelque chose qui était dans mon cœur, qui était déposé et que j'ai continué à écouter. Et puis à un moment, j'ai arrêté. Et puis il y a eu un concours de circonstances. Et voilà, et on a tous plein de projets qui sont. Mis au pilon, avorté, déplacé, déstructuré. Et puis il y a certains de nos projets qui réussissent. Alors on peut regarder ce projet en disant elle a de la chance. Oui, mais je pense que on peut tous avoir des chances sur nos vies. Et ça peut être juste sourire à quelqu'un. J'en parlais hier aux célibataires. Sourire ou parler à quelqu'un dans la queue à la boucherie, à la poissonnerie. En fait, c'est notre œuvre en fait. C'est la première. Et puis après, il y a d'autres œuvres qui sont plus visibles. Et je vous remercie, David, de me poser ces questions qui me font prendre conscience du cadeau que j'ai dans les mains et qu'on m'a fait, en fait. Parce que c'est grâce à mes confrères et consoeurs coach, psychologues, auteurs chrétiens et non chrétiens que je suis là avec vous ce matin.
Oui, et puis merci de nous laisser un peu de vous. Parce que c'est vrai que quand on écrit un livre, eh bien, on abandonne un peu de soi et on le met sur la table de la fête du livre. Et puis comme ça, chacun peut venir consommer un peu de nous. Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui doutent parce que c'est quand même un effort personnel de se dire « Tiens, je suis dans cette situation, j'ai besoin d'aller voir un coach, alors on peut avoir une recommandation. » Mais est-ce qu'il faut douter? Est-ce que c'est infranchissable? Est-ce que c'est accessible? Quel est votre conseil là-dessus? Il faut y aller.
Alors déjà, j'entends bien votre question de « j'ai besoin » et parfois il y a un besoin. Enfin, voilà. Après, c'est une question de désir et de capacité à ouvrir certains sujets, certaines questions. Donc moi, je dirais aux personnes de prendre le temps et d'écouter ce qui est dans leur cœur. Et si elles en ont envie et si elles en ont le désir ou si elles en ont besoin, parce qu'effectivement, il y a une grande fragilité qui se réveille à elles et qu'elles se mettent en difficulté, alors... Oui, ça vaut le coup de parler de besoins.
Et puis de célibataires de tous les âges aussi,
oui,
parce qu'en fait, les questions sont
et
également
puis,
différentes.
Et s'il faut pousser une porte, je l'écris dans le livre, hein, c'est prendre le temps, parce qu'il faut que ce soit aussi un plaisir de venir en séance pour, quelque part, affronter ce qu'il y a de lumineux, ce que j'écris dans le livre, et puis aussi que ce soit un courage d'affronter ces ombres pour clarifier sa situation. Mais ce n'est pas uniquement une question de célibataire, vous voyez. Moi, je pense pas que les célibataires ont un problème. C'est pas... on est célibataire, c'est un état de vie. Et certaines personnes en couple, mariées, fiancées, célibataires, ont des problèmes. Mais voilà, c'est pas une proposition unique. Et il y a aussi d'autres chemins. Il y a des personnes qui font un chemin via des parcours entrepreneuriaux, via des projets où ils développent leur side projet, des talents. Et par là, la guérison passe. Moi, j'utiliserai pas le mot guérison, d'apaisement, en fait, tout simplement. Parce que je l'ai écrit dans mon livre, une blessure, ça reste une cicatrice. Après, on peut enlever un petit peu le pus, apaiser, etc. Comme vous avez dit tout à l'heure, consoler s'il y a de la tristesse. Mais voilà, la cicatrice reste là et ça fait partie de notre histoire, ce chemin. Mais voilà, essayons de vraiment d'être à l'écoute des uns et des autres et d'être très délicat du mieux qu'on puisse. En tout cas, moi, c'est mon intention quand j'accueille les uns et les autres, c'est vraiment déjà d'écouter. Tout à l'heure, on a parlé d'accueillir. J'ai beaucoup aimé là, Monsieur Peset qui disait notre principale mission, c'est d'accueillir dès le début à la gare. Nous, on accueille dans des lieux qu'on aime bien et on a juste envie d'être là et ensuite d'essayer de permettre à chacun d'entrer dans le chemin qui est le sien. En fait.
Qu'est-ce qui vous rend, c'est ma dernière question, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre métier?
Mon métier, ma mission, je pense qu'elle est très. Ce métier, il est très. Vous voyez, il est très attaché, il est très empreint de ma mission de vie. C'est un travail que j'ai fait de me dire voilà, quelle est ma mission de vie en tant que célibataire, comment je peux être féconde avec une transmission. Et voilà, et dans ce métier, je peux mettre. Plein de choses que j'aime, quoi. La présence, le silence, l'écoute, des matières artistiques, parce que j'ai aussi fait des modules avec à partir de peinture, d'écriture, de céramique, etc. Et puis la compétence et l'expertise. Et ça, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, je me suis formée. Je suis psychologue clinicienne et je suis contente de mettre mon expertise et ma compétence au service de ceux qui se veulent se déployer pour le monde et pour le bien commun.
Est-ce que je peux ajouter que témoigner vous rend heureuse? Parce qu'en tout cas, vous le faites avec un partage très, très généreux.
Je suis pleine de gratitude.
Merci. Chrysoline Brabant, B-R-A-B-A-N-T. Voilà, la force des célibataires. Sans question pour rayonner. Pardon, sans question pour se connaître. Et rayonner, c'est important l'ordre des mots. Sans question pour se connaître et rayonner, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Alors évidemment, c'est disponible dans les librairies, mais c'est disponible aussi sur la fête du livre de Lourdes. Chrysoline,
si je peux me permettre, Sainte Thérèse d'Avila a dit le début de la vie spirituelle commence par la connaissance de soi, et donc ce mot de la force des célibataires et se connaître était fondamental pour moi et profondément spirituel.
Merci beaucoup Chrysoline Brabant de nous avoir présenté ce livre. La fête du livre, bien évidemment, elle continue avec nos auteurs. Pour le moment, moi je propose que l'on fasse une pause, Philippe.
Oui,
une petite pause en musique.
Vous en avez bien besoin. On va faire une pause d'abord avec le journal et puis ensuite un petit peu de musique et puis après on vous retrouve bien sûr pour la deuxième partie de cette émission, puisque on le rappelle pour les auditeurs qui seraient en cours, qui auraient pris l'émission en cours, nous sommes dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour la fête du livre, la deuxième édition. C'est ça, David, hein ?
Eh oui. Eh bien, c'est ça. On est là pour la deuxième édition. On est sous le soleil. On a une petite brise légère.
Eh bien, écoutez, voilà, profitez de cette brise légère.
Et en tout cas, on va profiter du journal et des actualités d'aujourd'hui.
Allez, à tout à l'heure.
À tout de suite.
Dans la cité mariale, 96.
Le journal de la mi-journée nous est présenté par Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Bonjour, Carla.
Bonjour à tous. Dans le Tarn, l'Agence régionale de santé signale une augmentation des cas de dengue et de chikungunya liés aux moustiques tigres. Au 6 août, 5 cas de dengue et 2 cas de chikungunya, tous importés, ont été confirmés. Aucun cas autochtone n'a été détecté cette année dans le département. Des opérations de démoustification sont menées autour des zones à risque. La vigilance reste de mise pour éviter toute propagation. À Colomiers, en Haute-Garonne, une cavité a été découverte à 11 mètres de profondeur après le passage d'un tunnelier de la ligne C du métro toulousain. Située sous une propriété privée, elle n'a causé ni fissure ni dégâts. Tisséo a comblé la poche par injection de béton. Des capteurs surveillent en permanence le tracé pour détecter tout mouvement du sol. Le tunnelier concerné poursuit son creusement vers Saint-Martin-du-Touche. Dans les Hautes-Pyrénées, la rivière Léchesse est complètement à sec à Nouillan. La sécheresse et les fortes chaleurs ont fait chuter son débit jusqu'à la faire disparaître. La Fédération de pêche s'inquiète pour la faune aquatique, désormais concentrée dans des rares poches d'eau. Des restrictions d'usage de l'eau ont été mises en place et le débit du canal de la Guespe a légèrement augmenté. Mais la situation reste critique. Les pêcheurs appellent à repenser la gestion de l'eau pour éviter que les milieux aquatiques ne soient les premières victimes en période de pénurie. À Saverdun, en Ariège, plusieurs chantiers d'embellissement ont récemment animé le centre-ville. Le cimetière communal a été désherbé, un chemin piétonné sécurisé relie désormais le centre commercial Saint-Martin de Peilerade au commerce du village. Et sur la place de l'église, la fontaine historique, longtemps en panne, sera bientôt remise en service. Un vent de renouveau souffle sur la ville. Et avec 41,5 degrés enregistrés, Villeneuve-sur-Lot est en vigilance rouge canicule. La ville et le CCAS appellent régulièrement les seniors pour veiller à leur santé et prolongent l'ouverture de la table du CCAS, ouverte aussi aux mamans avec bébé. La résidence du beurre met ses salles climatisées à disposition des personnes âgées isolées et la piscine de Malbrante ferme à 21h et plusieurs événements sont déplacés ou adaptés. Et enfin, début août, à Millau, un saisonnier d'une trentaine d'années a remporté 500 000 euros en grattant un ticket d'or acheté 5 euros. Le gagnant, habituellement peu adepte de ce jeu, l'a pris sur un coup de tête avant de découvrir la somme en terrasse. Le buraliste, ravi pour lui, va recevoir une pancarte de la Française des Jeux pour signaler la victoire. Une belle publicité pour son kiosque et peut-être, qui sait, un signe que la chance repassera.
Un grand merci à Carla Ponce pour le journal. Carla Ponce, donc, élève donc à l'école de journalisme de Blagnac. Nous, on va aller de Blagnac, on va aller tout de suite à Lourdes pour retrouver pour la deuxième partie David Torchala. Vous êtes là, David?
Ah oui, je suis là, vous voyez, hop, Blagnac, Lourdes en quelques secondes. C'est la magie de la radio, ça.
Exactement. Alors, vous êtes donc pour cette deuxième édition des Fêtes du Livre. Très beau témoignage qu'on a entendu en première partie, hein. Mais je pense que la deuxième va être tout aussi intéressante.
Mais les témoignages de la deuxième partie d'émission vont être aussi très beaux. Oui, nous sommes à la Fête du Livre chrétien, à l'intérieur du sanctuaire de Lourdes, face à la librairie de la Grotte, cette magnifique librairie qui était le moulin de sa vie. Vous voyez, Bernadette a connu ce bâtiment, il a été transformé, c'était une ferme, et puis ensuite l'imprimerie du sanctuaire où était édité le journal de la Grotte. Oui, parce qu'à l'époque il y avait un quotidien, voilà, chaque jour on éditait un journal, et puis voilà, avec le temps c'est transformé dans une belle librairie religieuse avec une équipe formidable qui me permet, voilà, l'occasion de les saluer à l'antenne, et qui ont organisé cette Fête du Livre. Et alors, évidemment, nous sommes à quelques jours de la fête de l'Assomption, ça sera vendredi. C'est vrai que la canicule fait qu'il faut organiser les choses de manière un peu différente, hein. Les célébrations qui étaient prévues en plein air, eh bien, elles seront à l'intérieur de la basilique souterraine Saint-Pilice. Il faut savoir que quand même les bâtisseurs du sanctuaire, déjà en 58 pour le centenaire des apparitions, et notamment Monseigneur Théas, avaient prévu de construire cette basilique pour mettre les à l'abri. Alors peut-être que dans les années 50, ben voilà, on parlait peut-être de pluie, maintenant un peu plus de canicule. On peut tester peut-être aussi déjà le cas avant, mais voilà, au moins nous sommes tous abrités. Alors il faut changer, mais voilà, la Fête du Livre est toujours là. Et alors j'ai comme deuxième invité le père Christophe Spéricène. Bonjour père.
Bonjour David, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs
de Radio Présence.
De Radio Présence.
Ah ben oui, vous qui êtes originaire d'Alsace.
C'est l'autre bout.
Ah, c'est l'autre bout avec nos amis de RCF Alsace. Vous êtes délégué national de la pédagogie catéchétique et spécialisée à la conférence des évêques de France.
C'est ça.
Redites-nous exactement, pédagogie, catéchétique, spécialisée, voilà deux mots savants pour quelque chose de très simple, je crois.
Tout simplement, à la conférence des évêques de France, donc dans ce bâtiment qui se trouve à Paris, avenue de Breteuil, sommes une centaine de personnes à travailler donc au service des évêques et des diocèses de France pour aider à la mission pastorale. Et mon travail à moi consiste à aider justement les diocèses à pouvoir proposer des temps autour de la catéchèse, la formation des catéchistes et particulièrement la formation des catéchistes qui accueillent les personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on peut accompagner des enfants, des jeunes et des adultes handicapés à une préparation sacramentelle, au baptême, au premier pardon, à la confirmation, première des communions, et puis plus généralement, bien sûr, à une mise en contact, en relation avec le Christ, et donc une vie catéchétique, une vie chrétienne.
C'est quand même une mission qui n'est pas aisée de pouvoir transmettre, enseigner à des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez que l'Église est à la hauteur ou il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire?
C'est une mission très belle, hein. C'est une mission qui est passionnante parce que, évidemment, quand on parle de handicap, on parle de différents handicaps. Il y a une multitude de handicaps, des handicaps qui se voient, d'autres qui ne se voient pas, certains invisibles, d'autres très visibles. Donc le spectre du handicap est très large. Évidemment, pour un travail comme le mien, il est essentiel d'être aidé et accompagné par d'autres personnes. Et donc il y a tout un réseau dans l'Église de France de personnes, que ce soit au niveau de ce que l'on appelle la PPH, la pastorale des personnes handicapées, ou la PCS, la pédagogie catéchétique spécialisée, ça c'est pour le jargon, dans les diocèses, donc qui sont au service de l'accompagnement des catéchistes et des personnes qui aident les personnes en situation de handicap à accéder à une vie sacramentelle, à une vie chrétienne, une vie d'église. Et évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en termes d'inclusion, en termes d'accessibilité, en termes tout simplement de visibilité de ces personnes. Et je le redisais volontiers hier lors d'une conférence qui a été donnée ici à Lourdes, évidemment, tout ce qui tourne autour de la question du handicap, il ne s'agit pas de faire pour les personnes en situation de handicap, mais avec les personnes en situation de handicap. Et c'est là où nous avons encore beaucoup à faire.
Oui, c'est ça, c'est la nuance. Il ne faut pas que ce soit dans la totale verticalité, si j'ose dire. Mais le faire avec, c'est quand même ça, la difficulté de la mission.
C'est comme la pastorale des jeunes. Hein. On a compris depuis quelques temps quand même que la pastorale des jeunes, il ne s'agit pas de faire pour les jeunes, mais avec les jeunes. Et c'est pareil pour les personnes en situation de handicap. Elles nous apportent énormément quand on sait leur permettre justement d'accéder à la parole quand c'est possible, à la gestuelle, etc., pour pouvoir exprimer leurs attentes, leur vécu, être à l'écoute et avancer ensemble sur un chemin de vie, un chemin de foi.
Vous avez dit, vous avez donné cette conférence ici dans le sanctuaire de Lourdes. Bah, c'est pas anodin de parler ici de catéchèse et de handicap. Oui. Comment vous avez vécu ce moment et comment vous vivez encore dans ces jours de pèlerinage national?
C'est très très fort. Hein. À Lourdes, on est un peu, pardon pour l'expression, un peu dans une bulle. Dans une bulle parce que ici, effectivement, quand on entre, les fauteuils roulants ne manquent pas, les charrettes dont on a parlé au début de cette émission, même si elles vieillissantes, elles fonctionnent.
Ah, les voiturettes bleues de Lourdes.
Elles sont légion. Et puis, je suis très admiratif depuis deux jours de tous ces jeunes qui donnent une semaine sur leur congé d'été pour brancarder, véhiculer, etc. Ce que je veux dire, c'est que à Lourdes, évidemment, la présence des personnes en situation de handicap, l'accueil des personnes en situation de handicap, le prendre soin dont nous a tellement parlé le pape François durant son pontificat, il est là, il est fait. Il y a une expérience, il y a quelque chose de modélisant à Lourdes. Et évidemment, ce côté modélisant, ce serait super qu'il se retrouve dans nos paroisses et dans nos lieux d'activité ecclésiale. Et donc, je disais hier à la conférence que notre mission, c'est d'être un peu des, pardon pour le mot, hein, mais des grattes, des empêcheurs de tourner en rond. Enfin, voilà, c'est à nous en fait de rappeler que si les personnes en situation de handicap ne sont pas présentes dans nos communautés paroissiales, si on ne sait pas les accueillir, leur proposer un chemin de vie et de foi en complémentarité, eh bien, elles manquent et donc le corps de l'Église n'est pas au complet. Il manque, pour reprendre Saint Paul, il manque des membres du corps. En l'occurrence, le corps souffrant, le corps qui a quelque chose à nous dire de ce que c'est que la colère, la souffrance, le côté pénible de la vie, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du dépassement, tout ce qui est de l'ordre de la capacitation, tout ce qui est de l'ordre de la joie, dont le pape François nous parlait aussi avec tellement d'aisance.
Et c'est vrai que pour ça, ben, il faut se renseigner, il faut voir ce qui existe. Vous présentez ici plusieurs ouvrages, plusieurs réalisations dans cette fête du livre, des livrets prières, et puis également, ça c'est un talent que vous avez, vous êtes auteur, compositeur et interprète, parce que la musique, par la musique, vraiment, avec les personnes handicapées, on arrive à faire passer une émotion, quelque chose, peut-être un peu plus qu'avec les autres.
Oui, totalement. Je disais hier aussi, en commençant la conférence ici à Lourdes, que donc il y a quelque chose de modélisant, parce que les personnes en situation de handicap sont réellement prise en charge, on prend soin. Et il y a aussi quelque chose de modélisant de l'ordre de la beauté. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans ce sanctuaire, on entend chanter, on entend la beauté de la musique, que ce soit l'orgue, que ce soit les instruments, le chant, polyphonique. Alors, avec les personnes en situation de handicap, moi je suis dans un centre aumônier, dans un centre qui a que des personnes en situation de handicap mental. Quand on chante une partition à l'unisson, ça chante à sept voix. Mais c'est ça la beauté, justement.
C'est ça.
Et je crois beaucoup, beaucoup à ce canal qu'est le chant et la musique pour nous aider à entrer dans le mystère de la foi et de ce que le Christ nous donne à vivre. Les évangiles ne nous disent pas si le Seigneur aimait le chant, mais en tout cas on sait qu'il chantait les psaumes et notamment le Jeudi Saint. Donc la musique et le chant est un canal essentiel. On appelle ça la voie de la beauté dans la théologie spirituelle. Et les personnes en situation de handicap souvent ont besoin de rituels. Et dans la catéchèse, dans la catéchétique, on utilise beaucoup les chants et la musique comme des rituels qui permettent d'entrer dans un moment de catéchèse, de couper un moment de catéchèse, de faire une transition, d'aller au cœur, C-O-E-U-R. Dans un cœur, C-H-O-U-R.
C'est ça. Merci Père Christophe Spéricien d'être venu vous présenter notamment ce CD, cet album Pèlerin d'Espérance. Bah oui, les chants pour le jubilé avec les éditions Bayard Musique. Voilà un choix que vous avez composé, et puis aussi vos livrets prières. Voilà une occasion aussi de venir vous rencontrer.
Volontiers.
Et puis on prendra des nouvelles, parce que sur Radio Présence c'est un sujet, et notamment à l'autre, qui nous intéresse beaucoup. Donc on aura l'occasion d'approfondir ce sujet-là et puis de pouvoir donner les clés. Mais on continue cette fête du livre. Merci,
merci à vous,
Père Perissène. Merci beaucoup. Et puis on accueille Michel Cole qui est là, qui vient se mettre en place. Alors là, c'est une joie aussi toute particulière de vous accueillir. Bonjour Michel. On
se serre partager, la main. David. Hein, bonjour.
Ah, mais ça fait longtemps qu'on avait envie de ce temps-là. Alors vous, la fête du livre, vous connaissez, hein, parce que vous étiez là déjà l'année dernière.
Ah oui, c'est toujours très sympathique. Et puis vraiment, je regardais les personnes qui viennent ici feuilleter les livres, tout ça, c'est formidable.
Ah bah oui.
Je suis un amoureux des livres.
Ah bah c'est ça, vous êtes un amoureux
auteur,
des livres.
En même temps, un amoureux des livres.
Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes amoureux des livres, amoureux de l'Église, de l'information religieuse.
Et amoureux de Lourdes.
Amoureux de Lourdes, c'est vrai. C'est
vraiment... Ça fait 40 ans que j'y viens.
Ah oui,
vous rendez compte ?
40 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous venez, vous, Michel Cole, à Lourdes ?
Le fleuve qui marche le long du Gave, le fleuve des foules.
Ah oui.
Je suis fasciné par ce fleuve ininterrompu qui bien avant moi, a fasciné des observateurs et des auteurs. Je pense à Zola. Même Émile Zola était fasciné, et qui était pourtant athée, et qui était fasciné par cette foule qui ne s'arrête pas depuis les apparitions de Bernadette, et donc moi ça me fascine, et j'aime me laisser emporter, comme disait la chanson de Piaf, par la foule. J'aime la suivre, non pas par instinct grégaire, mais parce que je pense que là on sent l'âme profonde
du peuple de Dieu. Enfin, ça me touche beaucoup et je crois que c'est unique à Lourdes, ça.
Oui, et puis c'est aussi le défi du sanctuaire, parce que cette foule, en fait, elle est ininterrompue.
Ininterrompue.
Dès que les portes du sanctuaire s'ouvrent, bien, elle est là, et jusqu'à la fermeture, et ben voilà, c'est aussi ça le défi de pouvoir accueillir, parce qu'ici, dans cette foule, et bien, il y a des amoureux comme vous, des amoureux de Lourdes, et puis il y a aussi des personnes qui viennent comme ça, attirées par la grotte et par les par les apparitions.
C'est ça l'originalité de Lourdes aussi, c'est que c'est un lieu ouvert. C'est un lieu ouvert à tout le monde. On demande à personne ici s'il est baptisé ou pas. Et les gens peuvent venir, regarder, venez et voyez. Vous savez cette phrase de l'évangile, venez et voyez. Ici, les gens viennent et voient.
Voilà. Bah vous voyez, vous faites écho à notre première partie. On avait l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, les hospitaliers qui disent cette phrase de l'évangile, venez et voyez. Alors, Michel Coll, vous êtes là dans le cadre du pèlerinage national. Vous allez faire une conférence sur les 100 jours de Léon XIV. Parce que vous êtes un fin connaisseur. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un vaticaniste?
Non, parce qu'un vaticaniste, normalement, c'est quelqu'un qui est accrédité à la salle de presse du Saint-Siège, vous savez ça, David, et que moi, je ne peux pas prétendre être vaticaniste. Il se trouve que on m'a accolé ce titre parce que les faits sont têtus. Ça fait quand même 40 ans plus de 40 ans que je suis journaliste de l'information religieuse, donc ça fait un bail, mon cher ami, et il se trouve que j'ai eu la chance, la grâce, l'honneur, enfin, chacun choisira le nom, le mot qu'il préfère, d'accompagner les trois pontificats de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François, et de les avoir rencontrés tous les trois. Donc c'est vrai, et d'avoir écrit un certain nombre de livres sur la papauté, donc c'est vrai que d'une certaine manière, on me considère comme tel, comme vaticaniste, mais non, je ne suis pas un vaticaniste, disons que je suis un observateur, attentionné de ce qui se passe dans l'Église en général, et en particulier de l'action des papes, quoi.
Vous vous présentez là pour cette fête du livre chrétien à Lourdes, François, le pape François, l'anticonformiste, bilan du pontificat qui a bousculé l'Église. Anticonformiste, pape François? Vous y allez très fort.
Oui, j'y vais très fort, je ne sais pas, mais ce qui m'a agacé pendant tout ce pontificat qui a quand même duré 12 ans, c'est que un certain nombre d'observateurs, justement, ont essayé de coincer le pape François ou de lui mettre une étiquette, justement. Est-ce qu'il était conservateur, progressiste? Est-ce qu'il était à droite, à gauche, révolutionnaire ou conservateur? Moi, je trouve que ces étiquetages sont réducteurs. Ils ne disent pas la réalité plus complexe d'une part de la personnalité du pape François et d'autre part de son pontificat. Ça me paraît être des clivages, si vous voulez, qui ne sont pas signifiants. Donc j'ai cherché, c'est vrai que depuis 12 ans ce pape était assez fascinant quand même, c'est un personnage hors du commun. On se souvient de son apparition à la Loggia, tous les observateurs étaient un peu bluffés par... Mais j'ai essayé de savoir quelle était sa singularité profonde, quelle était sa personnalité si étonnante. Et il m'a semblé que c'était l'anticonformisme. Et j'ai été certifié dans cette idée-là par la lecture d'un livre-entretien qu'il a accordé au sociologue Dominique Volton, où à un moment, Dominique Volton lui dit « Mais Saint-Père, c'est extraordinaire, vous êtes quand même au Vatican, vous êtes quand même inséré dans un protocole millénaire, enfin, vous avez des obligations, vous êtes dans un palais. Comment vous faites pour rester comme vous êtes, c'est vrai, authentique ?» Et il lui répond « Je suis libre comme un poisson dans l'eau, je suis libre spirituellement, je n'ai peur de rien. » Et si vous voulez, ça c'est une définition extraordinaire de la liberté spirituelle. C'est-à-dire qu'on soit pape ou qu'on ne soit pas pape, de toute façon, un baptisé, le jour où il a été baptisé, il reçoit un don, une grâce, la liberté spirituelle. C'est-à-dire cette capacité de témoigner avec ce qu'il est, avec ses talents, avec ses défauts aussi, parce qu'on en a tous, mais tel qu'on est, de témoigner de cette grâce d'être frère du Christ. C'est quand même incroyable. Et donc j'ai trouvé que c'était la clé pour moi d'entrer dans le personnage
et dans le pontificat. Et c'est là où j'ai mieux compris ce pourquoi il avait pu enthousiasmer certains et défriser d'autres, si je puis dire, ou en tout cas irriter d'autres, parce qu'il n'allait pas dans le sens des sentiers battus, il allait plutôt dans l'école buissonnière. C'était plutôt je veux rester profondément libre, à l'image d'ailleurs des chaussures qu'il a gardées, à l'image de
la maison Sainte-Marthe,
voilà, de tout ça, qui a un petit peu dérouté tout le monde. Voilà. Donc c'est, l'anticonformisme, c'est pas une marotte, c'est profond. C'est-à-dire c'est une authentique liberté spirituelle fondée sur une conviction profonde, je suis aimé du Seigneur, et cet amour du Seigneur ne me fait pas faire n'importe quoi. Je suis responsable, mais je suis libre. Libre d'être responsable.
François, l'anticonformiste, 1936-2025, le bilan du pontificat qui a bousculé l'Église, avec une coédition des éditions Emmanuel et des éditions et Salvatore, c'est... Donc c'est ce que vous présentez là. Vous allez également donner cette conférence sur les 100 jours de Léon XIV. Vous ne ferez pas de comparaison alors avec les deux papes.
Ah ben vous avez mis un mot. Alors les comparaisons sont intéressantes quand elles sont, je dirais, faites avec bienveillance et qu'elles sont faites dans le souci de chercher la vérité. Quand on fait des comparaisons pour opposer systématiquement, en l'occurrence les papes, ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que le petit jeu consistant à opposer les papes les uns aux autres est stérile, ne sert à rien. Et j'en veux pour simple preuve que depuis Jean XXIII, tous les papes, sans aucune exception, qui se sont succédés, ont validé le Concile Vatican II. L'ont non seulement validé, mais l'ont porté, l'ont mis en œuvre, chacun avec son style, son tempérament et son rythme.
Qu'est-ce que vous pensez du pape Léon XIV ? Alors, en 100 jours, on se fait un avis.
Alors, on se fait un avis, mais qui n'est pas... Je dirais ça cet après-midi. Les 100 jours donnent une esquisse de l'esquisse du pontificat.
Ah, oui,
voilà. Donc, il faut être patient. Il faut être patient comme l'est le pape François. Comme l'est le pape Léon, qui prend son temps pour connaître son nouveau job. Ben oui, il prend son temps. Il ne se précipite pas. Pour connaître le peuple de Dieu dans l'Église universelle, c'est pas rien. Il a sans doute une très grande connaissance des réalités du monde catholique ayant été supérieur de la congrégation des Augustins, parce que la congrégation est mondiale. Néanmoins, quand vous vous retrouvez à la tête de l'Église catholique, plus d'un milliard d'êtres humains, dans des disparités géographiques, culturelles, excusez-moi, mais je crois qu'il faut prendre un peu de temps quand même pour savoir où on en est, s'informer. Bon. Et puis, je crois que c'est quelqu'un qui... Alors ça, c'est un petit point commun avec le pape François, qui est libre. C'est un fils de Saint-Augustin.
Oui.
Hein, c'est un augustinien. Et la liberté intérieure, c'est fondamental dans la spiritualité de Saint-Augustin. Donc, c'est pas quelqu'un qui se fera dicter son comportement, ses décisions par les opinions, les sondages ou les pressions. Je crois que c'est un homme qui va rester profondément libre.
Ça plaît beaucoup, hein, journaliste d'information religieuse, cette liberté.
Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, ça me plaît beaucoup. Et puis surtout, ça ne peut que nous faire du bien. Alors que c'est vrai, nous vivons dans un monde où on aurait plutôt tendance à se résigner à la guerre, à la peur de l'avenir. À beaucoup de problèmes, je dirais, sombres. Il est bon que le chef de l'Église catholique soit un homme qui nous apprenne par la manière lui-même d'exercer sa fonction, par ses discours, par sa façon d'être, par son style, qu'il nous rappelle que nous devons rester profondément libres spirituellement. C'est très important. Libre et de ne pas être simplement asservis par la doxa, l'opinion dominante, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, parce qu'on vit dans un monde de l'image. Donc je crois que c'est très très important que ce soit un pape religieux. François l'était, était jésuite, celui-ci est augustinien, parce que ce sont des hommes qui ont une vie de prière, une vie intérieure très forte, qui leur donne cette capacité de résistance à l'attrait de la mode ou des dernières idées.
Donc il faut être résistant.
Donc ce que je voulais dire, c'est que les 100 jours, me semble-t-il, m'ont convaincu, en tout cas, d'une chose. Je vous disais tout à l'heure, tous les papes depuis Jean XXIII qui se sont succédés ont été des papes conciliaires. Alors celui-ci, s'il ne l'est pas, je demande à ce qu'on me tranche la main.
Ouais.
Le 10 mai, c'est passé un peu inaperçu. Le 10 mai, sa première rencontre avec les cardinaux qui venaient de les lire. Il leur fait un discours. Et dans ce discours, moi, ça m'a stupéfait, ça m'a surpris. Je crois qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait. Il demande assez aux cardinaux de faire allégeance aux intuitions du Concile Vatican II. Vous vous rendez compte ? De renouveler leur fidélité aux orientations du Concile. Et il décline les quatre grandes orientations du Concile Vatican II. Et il dit, moi je le fais, je vous demande de le faire. C'est quand même... Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ce pape sera le digne successeur de tous ses prédécesseurs. Et il va continuer avec son style, à sa manière, et dans des circonstances différentes, évidemment, puisque l'histoire avance, mais il va poursuivre l'œuvre du Concile Vatican II, dont je rappelle que le 8 décembre prochain, nous commémorons le 60e anniversaire. Et moi, je m'attends à un discours programmatique du pape Léon XIV ce jour-là.
Ah, ça c'est vrai, c'est possible, on le suivra. On arrive au terme de cette émission, Michel Coll, je suis obligé de vous poser cette dernière question. Je sais que vous n'avez pas la réponse, mais on attend.
Il va la poser quand même.
Oh, bah Léon XIV, on aimerait tellement le voir en France et à Lourdes. Est-ce que vous pensez que le pape François a blessé un peu la France, le fait de ne pas venir officiellement en France? Bien sûr qu'il est venu à Strasbourg.
Moi, je ne pense plus, puis voilà, je pense que maintenant...
C'est derrière nous.
C'est derrière nous, puis attendez, les deux derniers voyages qu'il a fait, c'est chez nous.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est chez nous.
C'est le dernier voyage, en tout cas, c'est la Corse.
C'est vrai, c'est la France.
Donc, il a quand même honoré...
Voilà, un anticonformisme.
Je pense que le pape... J'ai lu une information, mais alors c'est pareil, là, c'est vraiment... Je n'ai aucune certitude. J'ai lu une information comme quoi le pape Léon souhaiterait venir à Lourdes. Ça, je l'ai lu.
Ah, et oui, et oui, évidemment, c'est une invitation.
Mais je ne veux pas créer de fausses espérances.
Mais écoutez, en tout cas, de l'espérance, on a au cœur. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, on se dit à bientôt, cher Philippe.
Et à bientôt, à lundi pour votre chronique. Et puis,
à lundi.
Et puis
déjà,
à vendredi pour, bien sûr, le prochain direct. On va vous faire vivre à partir de 10h, bien sûr, la grande messe de l'Assomption. Donc, en direct depuis donc, la basilique Saint-Pédis, hein, si tout, effectivement, a vu le temps et la chaleur. Merci infiniment. On a entendu quand même des bruits de caisses enregistreuses. Ça a l'air de fonctionner, la librairie. Donc,
il y a beaucoup de monde. Venez avant qu'il manque des livres. Venez. Attention, mais ça part comme des petits.
Un grand merci, David.
Présence à Bagnères-de-Bigorre 88.9
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le mal est réel, mais il n'a pas le dernier mot. C'est l'enseignement du pape Léon XIV lors de l'audience générale.